bien, une nouvelle fois, nous sommes sur Radio Pont. Nous avons la joie d'avoir dans le studio Monsieur Christophe Pélissère. On va parler du Café Philo, du Centre Social et de la 3P. Ce mois-ci, donc le vendredi 9 décembre, le sujet, le thème, c'est la peur. On va en parler, on va développer. Je fais le tour un petit peu, parce qu'on est nombreux là dans le studio. La discussion va être pimentée, complétée, amendée.
Amandine,
qui est une bénévole, qui vient nous faire un petit coucou, comme ça, nous rencontrer, voir un petit peu comment une radio fonctionne. Donc bienvenue à toi, Amandine. Voilà, merci. À peine arrivée, tu vas participer à cette petite discussion. J'espère que tu n'en as pas peur, à l'avance.
Je tremble.
Derrière les consoles, et pour garantir un son de qualité, nous avons Virginie. Coucou Virginie.
Bonjour.
Et Mélanie. Coucou. Mélanie, qui aussi auront un micro pour éventuellement, quand elles le souhaitent, intervenir. La peur, c'est depuis le fond des âges qu'elle nous accompagne.
Eh bien oui, je ripile, je pâlis, j'ai la bouche sèche, des sueurs froides, des tremblements. Hein, je suis pas de relâchement de sphincter quand même. Mais la peur, c'est vrai, c'est avant tout quelque chose de très physiologique. C'est une émotion très primaire qui se conjugue d'ailleurs de plein de formes. Hein. Ça peut aller de l'effroi, l'épouvante, l'horreur, à frémir là derrière. Et puis, il y a l'angoisse, il y a la crainte, il y a plein de choses.
L'anxiété, il y a différents niveaux de peur.
Bien sûr. Le problème, c'est de se dire, est-ce que c'est nuisible, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Et puis on est à une époque où justement, on joue aussi sur toutes nos peurs.
Amandine, toi t'avais travaillé sur la peur, t'as réfléchi, t'y as pensé.
C'est un sujet, étonnamment, je m'y suis penchée plus profondément. Et finalement, ça m'a créé une certaine angoisse de travailler sur la peur, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de peurs que je ne connaissais pas, et on se projette toujours sur des peurs, même si on ne les vit pas. Et donc, c'est un peu un sujet qui a été anxiogène, finalement. Mais cependant, très intéressant, très, très instructif. Ça permet de s'observer soi-même aussi dans ses façons de réagir, et d'une façon plus large aussi, une façon plus universelle. Je me demandais, dans un premier temps, peut-on parler de peur réelle et de peur imaginaire?
Bien sûr, parce que déjà, la peur, comme tu l'as dit au début, nous met en face de nous-mêmes. C'est à nous de voir, d'analyser une situation et de voir si cette peur comporte véritablement un danger ou un risque, ou si elle est le fruit de notre imagination. D'autant que Sénèque, par exemple, dans Les Bienfaits, pour commencer par lui, nous dit que finalement, la peur nous habite beaucoup plus en profondeur qu'on ne croit. Elle dirige nos émotions les plus secrètes, nos pensées et même nos représentations. La question étant de savoir si la peur est réelle ou imaginaire, en fonction de ça, nous situer et de faire preuve d'une certaine prudence ou d'un certain courage. Finalement, tous les philosophes, en fait, distingueront, ils pensent que c'est la philosophie qui est un remède à la peur, et ils distinguent quand même deux types de peur. Celle qui est qui est physiologique, qui concerne le corps, et là, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire qu'une habituation à ça. Et puis, la peur qui serait plutôt un petit peu la crainte, et qui nous permet justement de nous mettre face à nous-mêmes, de distinguer ce qui est de l'ordre de notre imagination et de l'ordre de ce qui est objectif.
Et qu'est-ce qu'on pourrait en fait opposer à la peur? Est-ce que la peur aurait un contraire?
C'est pas l'absence de peur qui est le contraire, ou l'impavidité qui serait considérée comme une inconscience ou comme quelque chose qui de toute façon serait impossible. Ce serait plutôt opposé à la peur, eh bien justement, l'activité philosophique rationnelle, la réflexion, ce que Aristote appelle dans l'éthique à Nicomaque la phronesis, c'est-à-dire une certaine prudence devant l'événement, parce que finalement, la peur, en prenant notre insouciance, va nous apprendre, va nous obliger à réfléchir. Mais il faut que cette réflexion, eh bien, on s'habitue à la voir. Alors, Montaigne dit la même chose pour la mort, puisque tu parlais de la peur de la mort. Il dit même la fameuse phrase que vous avez peut-être tous étudié dans vos années de terminale, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Il ne veut pas dire par là qu'il faut tout le temps réfléchir à la mort, mais que, moi je ne sais pas, c'est comme mon grand-père dans l'Aveyron, qui avait, je me souviens très bien, à la fin de sa vie, un cercueil dans lequel, par exemple, il mettait des noix, et en attendant de mourir, il disait, ben voilà.
Il s'habituait. Je trouve une utilité au cercueil.
Oui, voilà. Et puis ça n'empêchait pas de vivre. Donc voilà, ce serait plutôt ça qui est un remède à la peur. Ce serait l'activité philosophique, finalement, par la réflexion. Et c'est un peu aussi la phrase d'Épictète qui dit « Vis en sachant que tu peux mourir d'un moment à l'autre ou demain, mais en disant que tu as l'éternité devant toi. Mm-hmm. » C'est un peu paradoxal, c'est certain. Et on n'est pas toujours dans la maîtrise, hein, on ne maîtrise pas toujours les situations.
Oui, c'est ça, ça me fait penser, ce que vous me dites clairement, à la vulnérabilité.
C'est pour ça que la peur a un sens, on va dire métaphysique, hein, c'est pas pour utiliser, ou ontologique même, pour pas, parce que tout simplement, elle nous renvoie aussi au fait que notre condition humaine, où on est, on peut périr, on est tous condamnés à mourir d'une façon ou d'une autre, et toutes les peurs, lorsque vraiment, soit on n'a pas le temps d'y penser. Et comme on dit, il y a un accident, il y a un truc, ça va très vite, on est dans une réaction, hein, le truc purement réactif, quoi, qui ne nous fait pas penser, qui nous entraîne avec les autres, parce que la peur se transmet. Soit on est dans cette réflexion, finalement, solitaire, qui nous renvoie à nous-mêmes et qui génère, alors à ce moment-là, le degré existentiel de la peur qu'on appelle l'angoisse. Qui a été bien étudié, on le verra, par Sartre, Kierkegaard, etc. Et alors, ce qui fait que l'on peut distinguer deux types de peur, une peur externe, qui est la peur physiologique, en quelque sorte, de l'agression, de l'attaque, et puis la peur interne, qui renvoie à des angoisses, à nos représentations, et de même que l'on peut distinguer donc la peur immédiate, et puis la crainte qui porte sur l'avenir. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que la peur, eh bien, elle se transmet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si la peur se transmet, c'est parce que c'est une émotion qu'on peut instrumentaliser assez facilement. Dans le cas de l'enfant, je ne sais pas si tu dis qu'il n'a pas spécialement peur, mais il y a quand même un âge qu'on appelle justement l'âge un peu métaphysique où l'enfant s'interroge, il a peur du noir, il a peur de l'autre qui n'est pas sa mère, il a peur même de disparaître du néant quand même. Donc cette peur, c'est aussi en nous, très tôt, je pense.
D'accord, donc ce n'est pas des peurs transmises, c'est des peurs qui sont présentes en nous.
Voilà, mais de la réponse de l'adulte va dépendre peut-être aussi la façon dont...
La peur du noir et la peur de la nuit, oui, c'est quelque chose d'ancestral. Nos premiers ancêtres sortaient pas la nuit, parce que la nuit, quand on n'avait pas de feu, tout ça, la nuit était dangereuse, le noir du dehors.
Oui, d'ailleurs, même métaphoriquement, la raison, c'est synonyme de lumière, de siècle des lumières, de ce qui éclaire, alors que tout ce qui est ténèbres, ce qui obscurcit, donc la première des peurs archétypales, c'est Jung qui l'a, c'est celle du noir, justement.
C'est la peur du noir.
La peur.
Moi, j'aurais quand même une petite question, parce que la peur aussi peut devenir une force dans certains cas.
Alors, oui. La peur, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme elle nous oblige à réfléchir, elle peut faire naître ce qu'on va appeler, mais ce qu'il conseille comme une vertu, si l'on veut, parce que là, par contre, on prend ça sur soi, le courage. Voilà. Alors, dans le courage, il y a justement, contrairement à la peur panique, l'idée que en nous libérant de l'inertie de départ, en nous permettant de nous dépasser, eh bien, cela nous donne une capacité personnelle d'affronter les dangers, mais en toute lucidité. Et moi, je suis parfois frappé de voir, quand il y a des récits de sauvetage, de gens qui se jettent à l'eau, que finalement, il y a certains philosophes qui vont le nier, qui vont dire, ben oui, ça ne peut pas exister de courage. Eh bien, ils disent, mais je n'ai pas pensé. C'était de l'inconscience.
J'ai pas eu le temps
de le faire. Et donc là, il y a aussi un problème qu'on abordera. Est-ce que ce courage-là, c'est pas aussi de la même peur, façon que la peur réactive, une espèce d'inconscience?
C'est surtout après, en fait, qu'on l'a, la peur. Du moment où on l'a fait, admettons, par rapport à ces actes-là, sur le moment, on n'a pas peur, mais une fois qu'on l'a fait et que heureusement on en sort vivant ou avec rien, et bah du coup on s'est appris, on se dit du coup j'ai quand même bien
j'ai
flippé,
frôlé
quoi.
Ça
ouais. oui c'est vrai quoi.
J'avais trouvé, parce qu'il y a quelques temps, il y avait Halloween, et pour Halloween, j'avais sorti la liste de toutes les phobies qui existent, et la liste est longue, d'avoir des peurs qui sont passées dans la pathologie, avoir peur de se mettre en colère en public, avoir peur des araignées, évidemment, et d'un certain nombre d'insectes, voilà, et c'est fou le nombre de peurs qui hantent la société d'aujourd'hui.
Oui, alors, les phobies, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, mais la vérité, je pense qu'il y a autant de phobies, finalement, que de représentations qu'on peut avoir, ou de menaces qui sont exercées sur nous, mais l'aspect le plus, moi je crois, qui est le plus intéressant, c'est, plus qu'une psychologie de la peur, une politique de la peur, finalement, parce que tous les pouvoirs, hein, quels qu'ils soient, et même le pouvoir démocratique, pour faire respecter les lois, c'est ce que disait Weber quand il dit que l'État, le monopole de la violence légitime, utilise ce sentiment. Et regardez par exemple le cas du terrorisme. Il y a cette épouvante du terrorisme d'un côté, et en même temps de l'autre côté, l'État, pour conserver sa respectabilité, qui lui aussi va... Je ne dis pas qu'il joue sur des psychoses, mais dans beaucoup de cas, ça peut être fait. Mmh. Et là, il y a un nouveau problème qui se pose. Maintenant qu'on a dépassé cette dialectique entre peur, crainte, espoir, c'est celui du rôle de la peur dans, finalement,
dans
la
société. Une société.
Ouais. Dans une société.
Tu nous disais tout à l'heure que la peur pouvait être communicative. Ça, beaucoup de gens l'ont compris, et y compris les tenants du pouvoir. Et donc, on peut instiller dans des populations des sentiments de peur, des sensations, et en utiliser les effets. Est-ce que c'est bien de ça dont tu nous parlais ?
Mais bien sûr, tout pouvoir, quel qu'il soit, eh bien, utilise pour se maintenir ce ressort fondamental qu'est la peur. Et il y a deux philosophes qui en ont très bien parlé, c'est la Boétie dans « De la servitude volontaire » et puis Spinoza dans « Le traité théologico-politique ». Le premier, eh bien, il dit « Mais comment se fait-il que toutes les masses, même organisées, acceptent... » Alors lui, il prend l'État, c'était l'État de monarchie, vont accepter ce pouvoir laïque, ben justement parce que c'est la crainte de perdre quelque chose. Mmh. C'est la crainte du...
De la mise en danger, de l'avenir.
Du pire qui va nous faire accepter le présent.
Pour une petite citation, « Avoir peur, c'est mourir mille fois, c'est pire que la mort. »
Exactement, c'est ce danger, ces petits dangers qui nous mettent, parce qu'on veut tous être dans le confort intellectuel et politique, voilà. Alors, cette servitude volontaire, Spinoza aussi nous montre que finalement, la crainte qu'inspirent les masses ou les collectivités, eh bien, fait que le pouvoir lui-même va inspiré de la crainte pour s'en libérer. Parce qu'une foule, nous dit-il, qui n'aurait pas de crainte, est absolument incontrôlable. Et lui, il dit, finalement, c'est pas tant le partage du pouvoir, parce que lui, il analyse tous les systèmes politiques. Hein. Ce qu'il dit là, c'est valable aussi bien pour la démocratie que pour la monarchie. Quoi. Mais c'est plutôt un équilibre de puissance entre ce qu'il appelle la masse ou la masse critique et le pouvoir. Et nous dit-il, c'est pas seulement une affaire d'institution, mais c'est une affaire d'éducation. Et il prend même comme exemple les révoltes qui avaient eu lieu en Allemagne avec Luther, la révolte des paysans, etc. Il dit, le destin de beaucoup de révolutions, c'est d'abord une libération incontestable, ce que Camus dans Le Révolté appelle aussi l'effusion lyrique. Hein. Et puis après, il dit, c'est souvent suivi de la répression, de la terreur, et ensuite, quelques temps après, de la restauration. Donc il y a toujours... pour Spinoza, une espèce de fatalité qui fait qu'aucun régime, en fait, ne peut se passer de cette peur qui va inspirer avec des moyens plus ou moins coercitifs. Et il y a même un auteur, à contre-courant un peu de tous les autres, c'est Hans Jonas, dans le principe responsabilité. C'est lui le fameux inventeur du principe précaution qui le dit. Ben voilà, il défend lui la peur comme presque une vertu, au même titre que le courage. Il dit dans cette société de technosciences qui nous introduit dans une autre dimension, qui est complètement autonome par rapport à nous, par rapport au risque, eh bien, il faut réintroduire la peur comme une pensée fondamentale qui va en quelque sorte nous remontrer la fragilité de notre condition et le fait qu'on n'a qu'une biosphère et que, par conséquent, on ne peut pas vivre ailleurs. Et ça, c'est un petit peu, dans le paysage philosophique, c'est une pensée originale, parce qu'il dit même que cette peur doit nous entraîner à considérer comme sujet de droit des choses ou des qui ne revendiquent pas leurs droits. De la même façon que la morale doit protéger les handicapés, les enfants, etc., qui n'ont pas forcément un discours politique de revendication des droits, eh bien... les humains, les animaux, la nature par elle-même, qui devient sujet de droit. Mm-hmm. Et c'est pas par simplement empathie, mais c'est par la peur de la destruction de l'idée même d'humanité, d'après lui, qu'il faut avoir cette position. Donc vous voyez, là, dans ce cas-là, la peur devient quelque chose de tout à fait, pour en tout cas Jonas, positif.
On continuera bien évidemment toute cette discussion parce que c'est que l'introduction. Donc moi, je réinvite tous les auditeurs à venir vendredi 9 décembre au centre social de Pont à partir de 19h jusqu'à 21h et parfois un peu plus. On discute du sujet, là en l'occurrence la peur. Et après, comme chacun a amené un petit truc à manger, on mange ensemble, on poursuit la discussion ou pas. On fait connaissance sous une forme un peu plus conviviale. On enchaîne avec un morceau qui traite de la peur sociale dont tu parlais tout à l'heure.
Oui.
Et avec Enya Arcana qu'on parle. C'est parti.
Le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile. Où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre. Te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair. Frotter la marche au carcher. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre. Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver. Ils ont peur de penser. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la différence. Ils ont peur de leur prochain. Ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades.
Ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté.
Te porte et la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas.
Ils ont peur de la liberté.
même si pour la paix ce monde est en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie descend de ton regard. Samara, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte. Camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies. Va où ton cœur te porte, camarade.